Chapitre 18, Comte de ménage, Marie-Antoinette, reine Jeanne de la Motte, femme, le reçu de Boehmer et la reconnaissance de la reine. C'était l'avant-veille du premier paiement indiqué par la reine. Monsieur de Calonne n'avait pas encore tenu ses promesses, ses comptes n'étaient point signés par le roi. C'est que le ministre avait eu beaucoup de choses à faire, il avait un peu oublié la reine. Elle, de son côté, ne pensait pas qu'il fût de sa dignité de rafraîchir la mémoire au contrôleur des finances. Ayant reçu sa promesse, elle attendait. Cependant, elle commençait à s'inquiéter et à s'informer, à chercher les moyens de parler à monsieur de Calonne sans compromettre la reine, quand un billet lui vint du ministre. « Ce soir, disait-il, l'affaire dont Votre Majesté m'a fait l'honneur de me charger sera signée au Conseil et les fonds seront chez la reine demain matin. » Sa gaieté revint aux lèvres de Marie-Antoinette, elle ne songea plus à rien, pas même à ce lendemain si lourd. On la vit même chercher dans ses promenades les plus secrètes allées, comme pour isoler ses pensées de tout contact matériel et mondain. Elle se promenait encore avec madame de Lamballe et le comte d'Artois qui l'avait rejointe quand le roi entra au conseil après son dîner. Le roi était d'humeur difficile. Les nouvelles de Russie se présentaient mauvaises. Un vaisseau s'était perdu dans le golfe du Lion. Quelques provinces refusaient l'impôt. Une belle map-monde, polie et vernie par le roi lui-même, avait éclaté de chaleur et l'Europe se trouvait coupée en deux parties. À la jonction du 30e degré de latitude avec le 55e de longitude. Sa Majesté boudait tout le monde, même Monsieur de Calonne. En vain, celui-ci offrit-il son beau portefeuille parfumé avec sa mine riante. Le roi se mit, silencieux et morose, à griffonner sur un morceau de papier blanc des hachures qui signifiaient « tempête » comme les bons hommes et les chevaux signifiaient « beau temps ». Car la manie du roi était de dessiner pendant les conseils. Louis XVI n'aimait pas à regarder les gens en face, il était timide. Une plume à la main lui donnait assurance et maintien. Pendant qu'il s'occupait ainsi, l'orateur pouvait développer ses arguments. Le roi, levant un œil furtif, prenait çà et là un peu du feu de ses regards, tout juste autant qu'il en fallait pour ne pas oublier l'homme en jugeant l'idée. Parlait-il lui-même, et il parlait bien, son dessein ôtait tout air de prétention à son discours, il n'avait plus de gestes à faire, il pouvait s'interrompre ou s'échauffer à loisir, le trait sur le papier remplaçait au besoin les ornements de la parole. Le roi prit donc la parole, selon son habitude, et les ministres commencèrent la lecture des projets ou des notes diplomatiques. Le roi ne souffla pas mot, il laissa passer la correspondance étrangère comme s'il ne comprenait pas une parole à ce genre de travail. Mais on en vint au détail des comptes du mois. Il leva la tête. Monsieur de Calonne venait d'ouvrir un mémoire relatif à l'emprunt projeté pour l'année suivante. Le roi se mit à faire des hachures avec fureur. « Toujours emprunté, dit-il, sans savoir comment on rendra. C'est pourtant un problème, cela, monsieur de Calonne. »« Sire, un emprunt, c'est la saignée faite à une source. L'eau disparaît ici pour abonder là. Il y a plus. Elle se voit doublée par les aspirations souterraines. Et d'abord, au lieu de dire « comment paierons-nous », il faudrait dire « comment et sur quoi emprunterons-nous ». Car le problème dont parlait Votre Majesté n'est pas « avec quoi rend-on, mais bien trouvera-t-on des créanciers ?» Le roi poussa les hachures jusqu'au noir le plus opaque, mais il n'ajouta pas un mot, ses traits parlaient d'eux-mêmes. Monsieur de Calonne ayant exposé son plan avec l'approbation de ses collègues, le roi prit le projet et le signa, bien qu'en soupirant. « Maintenant que nous avons de l'argent, dit Monsieur de Calonne en riant, dépensons. » Le roi regarda son ministre avec une grimace et de la hachure fit un énorme pâté d'encre. Monsieur de Calonne lui passa un état composé de pensions, de gratifications, d'encouragements, de dons et de soldes. Le travail était court, bien détaillé. Le roi tourna les pages et courut au total. 1 100 000 livres pour si peu, comment cela se fait-il? Et il laissa reposer la plume. Lisez, sire, et veuillez remarquer que sur les 1 100 000 livres, un seul article est porté à 500 000 livres. Quel article, monsieur le contrôleur général, l'avance faite à la reine, sire? À la reine? S'écria Louis XVI. 500 000 livres à la reine? Mais monsieur, ce n'est pas possible. Pardon, sire, mais le chiffre est exact. 500 000 livres à la reine, répéta le roi. Il faut qu'il y ait erreur. La semaine dernière, non, la quinzaine, j'ai fait payer le trimestre à sa majesté. Sire, si la reine a eu besoin d'argent, et l'on sait comment sa majesté en use, il n'est point extraordinaire. Non, non, s'écria le roi, qui éprouva le besoin de faire parler de son économie et de concilier quelques applaudissements à la reine quand elle riait à l'opéra. La reine ne veut pas de cette somme-là, monsieur de Calonne. La reine m'a dit qu'un vaisseau vaut mieux que des joyaux. La reine pense que si la France emprunte pour nourrir ses pauvres, nous autres riches, nous devons prêter à la France. Donc, si la reine a besoin de cet argent, son mérite sera plus grand de l'attendre. Et je vous garantis, moi, qu'elle l'attendra. Les ministres applaudirent beaucoup cet élan patriotique du roi que le divin Horace n'eût pas appelé uxorius en ce moment. Seul M. de Calonne, qui savait l'embarras de la reine, insista sur l'allocation. « Vraiment, dit le roi, vous êtes plus intéressé pour nous que nous-mêmes. Calmez-vous, monsieur de Calonne. La reine, sire, m'accusera d'avoir été bien peu zélée pour son service. Je plaiderai votre cause auprès d'elle. La reine, sire, ne demande jamais que forcée par la nécessité. Si la reine a des besoins, ils seront moins impérieux, je l'espère, que ceux des pauvres, et elle en conviendra toute la première. Sire, article entendu, fit le roi résolument. Et il prit la plume aux hachures. « Vous biffez ce crédit, sire ? » fit M. de Calonne, consterné. « Je le biffe, » répondit majestueusement Louis XVI. « Et il me semble entendre déjà d'ici la voix généreuse de la reine me remercier d'avoir si bien compris son cœur. » M. de Calonne se mordit les lèvres. Louis, content de ce sacrifice personnel héroïque, signa tout le reste avec une bonne foi aveugle. Et il dessina un beau zèbre entouré de zéros en répétant « J'ai gagné ce soir 500 000 livres. Une jolie journée de roi, Calonne. Vous donnerez cette bonne nouvelle à la reine. Vous verrez, vous verrez. » « Mon Dieu, sire, murmura le ministre, je serai au désespoir de vous ôter la joie de cet aveu, à chacun selon ses mérites. » Soit, répliqua le roi, levons la séance, assez de besogne quand la besogne est bonne. Ah, voilà la reine qui revient, allons-en au-devant d'elle, Calonne. Sire, je demande pardon à votre majesté, mais j'ai ma signature. Et il s'esquiva le plus promptement possible par le corridor. Le roi alla bravement et tout épanoui au-devant de Marie-Antoinette, qui chantait dans le vestibule en appuyant son bras sur celui du comte d'Artois. « Madame, dit-il, vous avez fait une bonne promenade, n'est-ce pas ? Excellente, sire, et vous, avez-vous fait un bon travail ? Jugez-en, je vous ai gagné 500 000 livres. » « Calonne a tenu parole, pensa la reine. Figurez-vous, ajouta Louis XVI, que Calonne vous avait porté sur le crédit pour 500 000. »« Oh ! Fit Antoinette en souriant. Et moi, j'ai biffé. Voilà 500 000 livres de gagné d'un revers de plume. » Comment biffer ? Fit la reine en pâlissant. « Tout net, cela va vous faire un bien énorme. Bonsoir, madame, bonsoir. Si, j'ai grand faim, je rentre. N'est-ce pas que j'ai bien gagné mon souper ? Sire, écoutez donc. » Mais Louis XVI sautilla et s'enfuit, radieux de sa plaisanterie, laissant la reine ébahie, muette et consternée. Mon frère, faites-moi chercher monsieur de Calonne, dit-elle enfin au comte d'Artois. Il y a quelques mauvais tours là-dessous. Justement, on apportait à la reine le billet suivant du ministre. Votre majesté aura su que le roi avait refusé le crédit. C'est incompréhensible, madame, et je me suis retiré du conseil, malade et pénétré de douleur. Lisez, fit-elle en passant le billet au comte d'Artois. « Et il y a des gens qui disent que nous dilapidons les finances, ma sœur !» s'écria le prince. « C'est là un procédé !»« De Marie !» murmura la reine. « Adieu, mon frère !»« Recevez mes compliments de condoléances, chère sœur, me voilà averti, moi qui voulais demander demain. Qu'on aille quérir Madame de Lamotte, dit la reine à Madame de Misery, après une longue méditation, partout où elle sera et sur le champ. Le courrier qu'on expédia à Paris à Madame de Lamotte trouva la comtesse, ou plutôt ne la trouva pas, chez le cardinal de Rohan. Jeanne était allée rendre visite à son éminence. Elle y avait dîné, elle y soupait, et s'entretenait avec lui de cette restitution malencontreuse, quand le courrier vint demander si la comtesse se trouvait chez monsieur de Rohan. Le Suisse, en habile homme, répondit que son éminence est sortie et que madame de Lamotte n'était pas à l'hôtel, mais que rien n'était plus aisé que de lui faire dire ce dont la reine avait chargé son messager, attendu qu'elle viendrait probablement le soir à l'hôtel. Qu'elle se rende à Versailles le plus vite qu'il se pourra, dit le coureur, et il partit, ayant semé le même avis dans tous les domiciles présumés de la nommade comtesse. Mais à peine le messager fut-il parti, que le Suisse, faisant sa commission sans aller bien loin, envoya sa femme prévenir madame de Lamotte chez monsieur de Rohan, où les deux associés philosophaient à loisir sur l'instabilité des grosses sommes d'argent. La comtesse, à l'avertissement, comprit qu'il y avait urgence à partir. Elle demanda deux bons chevaux au cardinal, qu'il installa lui-même dans une berline sans armoirie, et tandis qu'il faisait force commentaires sur ce message, la comtesse se roulait si bien qu'en une heure, elle arrivait au château. Quelqu'un l'attendait, qu'il introduisit sans retard auprès de Marie-Antoinette. La reine était retirée dans sa chambre, le service de nuit tout fait. Plus une femme dans l'appartement, excepté madame de Misery qui lisait dans le petit boudoir. Marie-Antoinette brodait ou feignait de broder, prêtant une oreille inquiète à tous les bruits du dehors, lorsque Jeanne se précipita au-devant d'elle. « Ah ! S'écria la reine, vous voici, tant mieux, une nouvelle comtesse. Bonne madame, jugez-en, le roi a refusé les 500 000 livres. » À monsieur de Calonne, à tout le monde, le roi ne veut plus me donner d'argent, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Mon Dieu, murmura la comtesse, c'est à ne pas croire, n'est-ce pas, comtesse, refuser, biffer l'ordonnance déjà faite. Enfin, ne parlons plus de ce qui est mort, vous allez vite retourner à Paris. Oui, madame, et dire au cardinal, puisqu'il a mis tant de dévouement à me faire plaisir, que j'accepte ces 500 000 livres jusqu'au prochain trimestre. C'est égoïste de ma part, comtesse, mais il le faut, j'abuse. Eh, madame, murmura Jeanne, nous sommes perdus. Monsieur le cardinal n'a plus d'argent. La reine fit un bond comme si elle venait d'être blessée ou insultée. Plus d'argent, balbutia-t-elle. Madame, une créance sur laquelle ne comptait plus monsieur de Rohan lui est revenue. C'était une dette d'honneur, il a payé. 500 000 livres? Oui, madame. Mais son dernier argent, plus de ressources. La reine s'arrêta comme étourdie par ce malheur. Je suis bien éveillée, n'est-ce pas, dit-elle. C'est bien à moi qu'arrivent tous ces mécomptes. Comment savez-vous cela, comtesse, que monsieur de Rohan n'a plus d'argent? Il me contait ce désastre il y a 1 h 30, madame. Ce désastre est d'autant moins réparable que les 500 000 livres étaient ce qu'on appelle le fond du tiroir. La reine appuya son front sur ses deux mains. Il faut prendre un parti, dit-elle. Que va faire la reine, pensa Jeanne. Voyez-vous, comtesse, c'est une leçon terrible qui me punira d'avoir fait en cachette du roi une action de médiocre importance, de médiocre ambition, ou de mesquine coquetterie. Je n'avais aucun besoin de ce collier, avouez-le. C'est vrai, madame, mais si une reine ne consultait que ses besoins et ses goûts, je veux consulter avant tout ma tranquillité, le bonheur de ma maison. Il ne fallait rien moins que ce premier échec pour me prouver à combien d'ennuis j'allais m'exposer, combien était féconde en disgrâce la route que j'avais choisie. J'y renonce. Allons franchement, allons librement, allons simplement. « Madame, et pour commencer, sacrifions notre vanité sur l'autel du devoir, comme disait monsieur Dora. » Et puis, avec un soupir, « Ah, ce collier était bien beau, cependant, » murmura-t-elle. « Elle l'est encore, madame, c'est de l'argent vivant, ce collier. Dès à présent, il n'est plus qu'un tas de pierres pour moi. Les pierres, on en fait, quand on a joué avec elles, ce que font les enfants après une partie de marelle. On les jette, on les oublie. Que veut dire la reine? La reine veut dire, chère comtesse, que vous allez reprendre l'écrin apporté par monsieur de Rohan, le reporter au joaillier Beumeur et Bossange. Le leur rendre, précisément. Mais, madame, votre majesté a donné 250 000 livres d'art. C'est encore 250 000 livres que je gagne, comtesse. Me voilà d'accord avec les comptes du roi. Madame, madame, s'écria la comtesse, perdre ainsi un quart de million, car il peut arriver que les joailliers fassent des difficultés pour rendre les fonds dont ils auraient disposé. J'y compte et je leur abandonne les arts à condition que le marché sera rompu. Depuis que j'entrevois ce but, comtesse, je me sens plus légère. Avec ce collier sont venus s'installer ici les soucis, les chagrins, les craintes, les soupçons. Jamais ces diamants n'auraient eu assez de feu pour sécher toutes les larmes que je sens peser en nuages sur moi. Comtesse, emportez-moi cet écrin, tout de suite. Les joailliers font là une bonne affaire. 250 000 livres de pot de vin, c'est un bénéfice. C'est le bénéfice qu'ils faisaient sur moi, et de plus, ils ont le collier. Je pense qu'ils ne s'en plaindront pas, et que nul n'en saura rien. Le cardinal n'a agi qu'en vue de me faire plaisir. Vous lui direz que mon plaisir est de n'avoir plus ce collier. Et s'il est homme d'esprit, il me comprendra. S'il est bon prêtre, il m'approuvera et m'affermira dans mon sacrifice. En disant ces mots, la reine tendait à Jeanne l'écrin fermé. Celle-ci le repoussa doucement. « Madame, dit-elle, pourquoi ne pas essayer d'obtenir encore un délai ?»« Demander, non !» J'ai dit « obtenir, madame !» Demander, c'est s'humilier, comtesse. Obtenir, c'est être humilié. Je concevrais peut-être qu'on s'humiliât pour une personne aimée, pour sauver une créature vivante, fût-ce son chien, mais pour avoir le droit de garder ces pierres qui brûlent comme le charbon allumé, sans être plus lumineuses et aussi durables. Oh, comtesse, voilà ce que nul conseil ne pourra jamais me décider à accepter. Jamais. Emportez l'écrin, ma chère, emportez. Mais songez, madame, au bruit que ces joailliers vont faire, par politesse au moins, et pour vous plaire, votre refus sera aussi compromettant que l'eût été votre acquiescement. Tout le public saura que vous avez eu les diamants en votre pouvoir. Nul ne saura rien, je ne dois plus rien à ces joailliers, je ne les recevrai plus. C'est bien le moins qu'ils se taisent pour mes 250 000 livres. Et mes ennemis, au lieu de dire que j'achète des diamants 1,5 million, diront seulement que je jette mon argent dans le commerce. C'est moins désagréable. Emportez, comtesse, emportez, et remerciez bien monsieur de Rohan pour sa bonne grâce et sa bonne volonté. Et par un mouvement impérieux, la reine remit l'écrin à Jeanne, qui ne sentit pas ce poids entre ses mains sans une certaine émotion. Vous n'avez pas de temps à perdre, poursuivit la reine. Moins les joailliers auront d'inquiétude, plus nous serons assurés du secret. Repartez vite et que nul ne voie l'écrin. Touchez d'abord chez vous, dans la crainte d'une visite chez Beumeur à 7 heures, qui pourrait éveiller les soupçons de la police, qui certainement s'occupe de ce qu'on fait chez moi. Puis, quand votre retour aura dépissé les espions, rendez-vous chez les joailliers et rapportez-moi d'eux un reçu. Oui, madame, il en sera fait ainsi, puisque vous le voulez. Elle serra l'écrin sous son mantelet, ayant soin que rien ne trahît le volume de la boîte, et monta en carrosse avec tout le zèle que réclamait l'auguste complice de son action. Alors, pour obéir, elle se fit conduire chez elle et renvoya le carrosse chez monsieur de Rohan, afin de ne rien dévoiler du secret au cocher qui l'avait conduite. Ensuite, elle se fit déshabiller pour prendre un costume moins élégant, plus propre à cette course nocturne. Sa femme de chambre l'habilla rapidement et observa qu'elle était pensive et distraite durant cette opération, ordinairement honorée de toute l'attention d'une femme de cour. Jeanne réellement ne songeait pas à sa toilette. Elle se laissait faire, elle tendait sa réflexion vers une idée étrange inspirée par l'occasion. Elle se demandait si le cardinal ne commettait pas une grande faute en laissant la reine rendre cette parure, et si la faute commise n'allait pas devenir un amoindrissement pour la fortune que M. de Rohan rêvait et pouvait se flatter d'atteindre, participant au premier secret de la reine. Agir selon l'ordre de Marie-Antoinette sans consulter M. de Rohan, n'était-ce pas manquer au premier devoir de l'association? Fût-il à bout de toute ressource, le cardinal n'aimerait-il pas mieux se vendre lui-même que de laisser la reine privée d'un objet qu'elle avait convoité? Je ne puis faire autrement, se dit Jeanne, que de consulter le cardinal. 1 400 000 livres, ajouta-t-elle dans sa pensée, jamais il n'aura 1 400 000 livres. Et puis, tout à coup, se tournant vers sa femme de chambre, sortez, Rose, dit-elle. La femme de chambre obéit, et madame de Lamotte continua son monologue mental. Quelle somme, quelle fortune, quelle radieuse vie! Et comme toute la félicité, tout l'éclat que procure une pareille somme sont bien représentés par ce petit serpent en pierre qui flamboie dans l'écrin que voici. Elle ouvrit l'écrin et se brûla les yeux au contact de ces ruisselantes flammes. Elle tira le collier de satin, le roula dans ses doigts, l'enferma dans ses deux petites mains en disant « 1 400 000 livres qui tiennent là-dedans, car ce collier vaut 1 400 000 livres d'argent réel, et les joailliers le paieraient ce prix encore aujourd'hui. Étrange destinée qui permet à la petite Jeanne de Valois, mendiante et obscure, de toucher de sa main la main d'une reine, la première du monde, et de posséder dans ses mains aussi, pour une heure il est vrai, 1 400 000 livres, une somme qui ne marche jamais seule en ce monde, et que l'on fait toujours escorter par des gardiens armés ou par des garanties qui ne peuvent être moindres en France que celles d'un cardinal et d'une reine. Tout cela dans mes 10 doigts, comme c'est lourd et comme c'est léger. Pour emporter en or, précieux métal, l'équivalent de cet écrin, j'aurais besoin de 2 chevaux. Pour l'emporter en billets de caisse, les billets de caisse sont-ils toujours payés? Ne faut-il pas signer, contrôler? Et puis, un papier, c'est un papier. Le feu, l'eau, l'air le détruisent. Un billet de caisse n'a pas de cours dans tous les pays. Il trahit son origine, il décèle le nom de son auteur, le nom du porteur. Un billet de caisse, après un certain temps, perd une partie de sa valeur ou sa valeur entière. Les diamants, au contraire, sont une dure matière qui résiste à tout et que tout homme connaît, apprécie, admire et achète à Londres, à Berlin, à Madrid, au Brésil même. Tous comprennent un diamant surtout de la taille et de l'eau qu'on trouve dans ceux-ci. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont admirables, quel ensemble et quel détail. Chacun d'eux détaché vaut peut-être plus, proportion gardée, qu'ils ne valent tous ensemble. Mais à quoi vais-je penser, dit-elle tout à coup. Vite, prenons le parti, soit d'aller trouver le cardinal, soit de rendre le collier à Beumeur ainsi que m'en charge la reine. Elle se leva, tenant toujours dans sa main les diamants qui s'échauffaient et resplendissaient. Il faut donc rentrer chez le froid bijoutier qui les pèsera et les polira de sa brosse, eux qui pouvaient briller sur le sein de Marie-Antoinette. Beumeur se récriera d'abord, puis se rassera en songeant qu'il a le bénéfice et conserve la marchandise. Ah, j'oubliais, dans quelle forme faut-il que je fasse rédiger le reçu du joaillier? C'est grave, oui, il y a dans cette rédaction beaucoup de diplomatie à faire. Il faut que l'écrit n'engage ni Beumeur, ni la reine, ni le cardinal, ni moi. Je ne rédigerai jamais seul un pareil acte, j'ai besoin d'un conseil. Le cardinal, oh non, si le cardinal m'aimait plus, ou s'il était plus riche et qu'il me donna les diamants. Elle s'assit sur son sofa, les diamants roulaient autour de sa main, la tête brûlante, pleine de pensées confuses et qui parfois l'épouvantaient et qu'elle repoussait avec une énergie fiévreuse. Soudain, son œil devint plus calme, plus fixe, plus arrêté sur une image de pensée uniforme. Elle ne s'aperçut pas que les minutes passaient, que tout prenait en elle un aplomb désormais inébranlable, que pareil à ces nageurs qui ont posé le pied dans la vase des fleuves, chaque mouvement qu'elle faisait pour se dégager la plongeait plus avant. Une heure se passa dans cette muette et profonde contemplation d'un but mystérieux. après quoi elle se leva lentement, pâlit comme la prêtresse par l'inspiration, et sonna sa femme de chambre. Il était 2 heures du matin. « Trouvez-moi un fiacre, dit-elle, ou une brouette, s'il n'y a plus de voiture. » La servante trouva un fiacre qui dormait dans la vieille rue du Temple. Madame de Lamotte monta seule et renvoya sa camériste. 10 minutes après, le fiacre s'arrêtait à la porte du pamphlétaire Retaux de Villette. Le résultat de cette visite nocturne faite au pamphlétaire Retaux de Villette apparut lendemain, et voici de quelle façon. À 7 heures du matin, Madame de Lamotte fit parvenir à la reine une lettre qui contenait le reçu des joailliers. Cette pièce importante était ainsi conçue. « Nous, sous-signés, reconnaissons avoir repris en possession le collier de diamants primitivement vendu à la reine, moyennant une somme de 1 600 000 livres, les diamants n'ayant pas agréé à sa majesté qui nous a dédommagés de nos démarches et de nos débours par l'abandon d'une somme de 250 000 livres versée en nos mains. » Signé Boehmer et Bossange. La reine, alors, tranquille sur l'affaire qui l'avait tourmentée trop longtemps, enferma le reçu dans son chiffonnier et n'y pensa plus. Mais par une étrange contradiction avec ce billet, les joailliers Boehmer et Bossange reçurent 2 jours après la visite du cardinal de Rohan, qui avait conservé, lui, quelques inquiétudes sur le paiement du premier solde convenu entre les vendeurs et la reine. Monsieur de Rohan trouva Boehmer dans sa maison du quai de l'école. Depuis le matin, échéance de ce premier terme, s'il y eut retard ou refus, l'alarme devait être au camp des joailliers. Mais tout au contraire, dans la maison des Boehmer, tout respirait le calme, et monsieur de Rohan fut heureux de trouver bon visage au valet, dos rond et queue frétillante au chien du logis. Boehmer reçut son illustre client avec l'épanchement de la satisfaction. « Eh bien, dit le premier, c'était aujourd'hui le terme du paiement. La reine a donc payé ?»« Monseigneur, non, répondit Boehmer. Sa majesté n'a pu donner l'argent. Vous savez que monsieur de Calonne s'est vu refuser par le roi. Tout le monde en parle. »« Oui, tout le monde en parle, Boehmer, et c'est justement ce refus qui m'amène. » « Mais, continua le joaillier, sa majesté est excellente et de bonne volonté. N'ayant pu payer, elle a garanti la dette et nous n'en demandons pas davantage. »« Ah, tant mieux !» s'écria le cardinal. « Garantie la dette, dites-vous, mais c'est très bien, mais comment ?»« De la façon la plus simple et la plus délicate, répliqua le joaillier, d'une façon toute royale. Par l'intromise de cette spirituelle comtesse, peut-être ? Non, monseigneur, non. Madame de Lamotte n'a même pas paru, et voilà ce qui nous a beaucoup flattés, monsieur Bossange et moi. Pas paru ? La comtesse n'a pas paru ? Croyez bien qu'elle est pour quelque chose, cependant, dans ceci, monsieur Boehmer. Toute bonne inspiration doit émaner de la comtesse. Je n'ôte rien à sa majesté, vous comprenez ? Monseigneur va juger si sa majesté a été délicate et bonne pour nous. Des bruits s'étaient répandus sur le refus du roi de l'ordonnancement des 500 000 livres. Nous autres, nous écrivîmes à Madame de Lamotte. Quand cela ? Hier, monseigneur. Que répondit-elle ? Votre éminence n'en sait rien, fit Boehmer avec une imperceptible nuance de respectueuse familiarité. Non, voilà 3 jours que je n'ai eu l'honneur de voir Madame la Comtesse, repartit le prince, en vrai prince. Eh bien, monseigneur, Madame de Lamotte répondit ce seul mot, attendez. Par écrit ? Non, monseigneur, de vive voix. Notre lettre priait Madame de Lamotte de vous demander une audience et de prévenir la reine que le paiement approchait. Le mot attendez était tout naturel, repartit le cardinal. Nous attendîmes donc, monseigneur, et hier au soir, nous reçûmes de la reine, par un courrier très mystérieux, une lettre. Une lettre à vous, Boehmer, ou plutôt une reconnaissance en bonne forme, monseigneur. Voyons, fit le cardinal. Oh, je vous la montrerai si nous ne nous étions jurés, mon associé et moi, de ne la faire voir à personne. Et pourquoi ? Parce que cette réserve nous est imposée par la reine elle-même, monseigneur. Jugez-en, sa majesté nous recommande le secret. Ah, c'est différent. Vous êtes très heureux, vous, messieurs les bijoutiers, d'avoir des lettres de la reine. Pour 1 350 000 livres, monseigneur, dit le joaillier en ricanant, on peut avoir 10 millions, et 100 millions ne paient pas de certaines choses, monsieur, repartit sévèrement le prélat. Enfin, vous êtes bien garanti. Autant que possible, monseigneur. La reine reconnaît la dette, bien et dûment, et s'engage à payer, dans 3 mois, 500 000 livres, le reste dans le semestre. Et les intérêts? Oh, monseigneur, un mot de Sa Majesté les garantit. Faisons, ajoute Sa Majesté, avec bonté, faisons cette affaire entre nous. Entre nous, Votre Excellence comprend bien la recommandation. Vous n'aurez pas lieu de vous en repentir. Et elle signe. Dès à présent, voyez-vous, monseigneur, c'est pour mon associé comme pour moi une affaire d'honneur. Me voilà quitte envers vous, monsieur Boehmer, dit le cardinal charmé, et bientôt une autre affaire, quand votre excellence daignera nous honorer de sa confiance. Mais remarquez encore en ceci la main de cette aimable comtesse. Nous sommes bien reconnaissants à madame de Lamotte, monseigneur, et nous sommes convenus, monsieur Bossange et moi, de reconnaître ses bontés quand le collier, payé intégralement, nous aura remis en argent comptant. Chut, chut, fit le cardinal, vous ne m'avez pas compris. Et il regagna son carrosse escorté par les respects de toute la maison. On peut maintenant lever le masque. Pour personne, le voile n'est resté sur la statue. Ce que Jeanne de Lamotte a fait contre sa bienfaitrice, chacun l'a compris en la voyant emprunter la plume du pamphlétaire Rétaux de Villette. Plus d'inquiétude chez les joailliers, plus de scrupules chez la reine, plus de doute chez le cardinal. 3 mois sont donnés à la perpétration du vol et du crime. Dans 3 mois, les fruits sinistres auront mûri assez pour que la main scélérate les cueille. Jeanne retourna chez monsieur de Rohan, qui lui demanda comment elle s'y était prise avec la reine pour assoupir ainsi les exigences des joailliers. Madame de Lamotte répondit que la reine avait fait au joaillier une confidence, que le secret était recommandé, qu'une reine qui paie a déjà trop besoin de se cacher, mais qu'elle s'y trouve bien autrement forcée encore quand elle demande du crédit. Le cardinal convint qu'elle avait raison, et en même temps il demanda si on se souvenait encore de ses bonnes intentions. Jeanne fit un tel tableau de la reconnaissance de la reine que monsieur de Rohan fut enthousiasmé, bien plus comme galant que comme sujet, bien plus dans son orgueil que dans son dévouement. Jeanne, en menant cette conversation à son but, avait résolu de rentrer paisiblement chez elle, de s'aboucher avec un marchand de pierreries, de vendre pour 100 000 écus de diamants et de gagner l'Angleterre ou la Russie, pays libre dans lesquels elle vivrait richement avec cette somme pendant 5 ou 6 années, au bout desquelles, sans pouvoir être inquiétée, elle commencerait à vendre avantageusement en détail le reste des diamants. Mais tout ne réussit pas à ses souhaits. Au premier diamant qu'elle fit voir à 2 experts, la surprise des argus et leurs réserves effrayèrent la vendeuse. L'un offrait des sommes méprisables, l'autre s'extasiait devant les pierres en disant qu'il n'en avait jamais vu de semblables, sinon dans le collier de Boehmer. Jeanne s'arrêta. Un pas de plus, elle était trahie. Elle comprit que l'imprudence, en pareil cas, c'était la ruine, que la ruine, c'était un pilori et une prison éternelle. Serrant les diamants dans la plus profonde de ses cachettes, elle résolut de se munir d'armes défensives si solides, d'armes offensives si acérées, qu'en cas de guerre, ceux-là fussent vaincus d'avance qui se présenteraient au combat. Louvoyée entre les désirs du cardinal, qui chercherait toujours à savoir, entre les indiscrétions de la reine, qui se vanterait toujours d'avoir refusé, c'était un danger terrible. Un mot échangé entre la reine et le cardinal, et tout se découvrirait. Jeanne se réconforta en songeant que le cardinal, amoureux de la reine, avait, comme tous les amoureux, un bandeau sur le front, et par conséquent tomberait dans tous les pièges que la ruse lui tendrait sous une ombre d'amour. Mais ce piège, il fallait qu'une main habile le présentât de façon à y prendre les deux intéressés. Il fallait que, si la reine découvrait le vol, elle n'osât se plaindre, que si le cardinal découvrait la fourbe, il se sentît perdu. C'était un coup de maître à jouer contre deux adversaires qui, d'avance, avaient toute la galerie pour eux. Jeanne ne recula pas. Elle était de ces natures intrépides qui poussent le mal jusqu'à l'héroïsme, le bien jusqu'au mal. Une seule pensée la préoccupa dès ce moment, c'était d'empêcher une entrevue du cardinal et de la reine. Tant qu'elle, Jeanne, serait entre eux, rien n'était perdu. Si, en arrière d'elle, ils échangeaient un mot, ce mot ruinait chez Jeanne la fortune de l'avenir échafaudée sur l'innocuité du passé. « Ils ne se verront plus, dit-elle, jamais. »« Cependant, objectait-elle, le cardinal voudra revoir la reine, il y tentera. »« N'attendons pas, pensa la rusée, qu'il y tente, inspirons-lui en l'idée, qu'il veuille la voir, qu'il la demande, qu'il se compromette en la demandant. »« Oui, mais s'il n'y a que lui de compromis, et cette pensée l'a jetée dans une perplexité douloureuse. » Lui seul étant compromis, la reine avait son secours. Elle parle si haut, la reine, elle sait si bien arracher un masque aux fourbes. Que faire? Pour que la reine ne puisse accuser, il faut qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. Pour fermer cette bouche noble et courageuse, il faut en comprimer les ressorts par l'initiative d'une accusation. Celui-là n'ose, devant un tribunal, accuser son valet d'avoir volé, qui peut être convaincu par son valet d'un crime aussi déshonorant que le vol. Que M. de Rohan soit compromis par rapport à la reine, il est presque sûr que la reine sera compromise quant à M. de Rohan. Mais que le hasard n'aille pas rapprocher ces deux êtres intéressés à découvrir le secret. Jeanne recula d'abord devant l'énormité du rocher qu'elle suspendait sur sa tête. Vivre ainsi, haletante, effarée, sous la menace d'une pareille chute. Oui, mais comment échapper à cette angoisse? Par la fuite, par l'exil, par le transport en pays étranger des diamants du collier de la reine. S'enfuir, chose aisée. Une bonne chaise se procure en 10 heures, l'espace d'un de ces bons sommeils de Marie-Antoinette. L'intervalle que met le cardinal entre un souper avec des amis et son lever du lendemain. Que la grande route se développe devant Jeanne, qu'elle offre ses pavés infinis aux pieds brûlants des chevaux, cela suffit, Jeanne sera libre, saine, sauve en 10 heures. Mais quel scandale, quelle honte, disparue, quoique libre, en sûreté, quoique proscrite. Jeanne n'est plus une femme de qualité, c'est une voleuse, une contumace que la justice n'atteint pas, mais qu'elle désigne, que le fer du bourreau ne brûle pas, elle est trop loin, mais que l'opinion dévore et broie. Non, elle ne s'enfuira pas. Le comble de l'audace et le comble de l'habileté sont comme les deux sommets de l'Atlas qui ressemblent aux jumeaux de la terre. L'un mène l'autre, l'un vaut l'autre. Qui voit l'un voit l'autre. Jeanne résolut de payer d'audace et de rester. Elle résolut cela surtout quand elle eut entrevu la possibilité de créer entre le cardinal et la reine une solidarité de terreur pour le jour où l'un ou l'autre voudrait s'apercevoir qu'un vol a été commis dans leur intimité. Jeanne s'était demandé combien, en 2 ans, rapporterait la faveur de la reine et l'amour du cardinal. Elle avait évalué le revenu de ces deux bonheurs à 500 000 livres, après desquels le dégoût, la disgrâce, l'abandon viendraient faire expier la faveur, la vogue et l'engouement. « Je gagne à mon plan 700 à 800 000 livres, se dit la comtesse. On verra comment cette âme profonde fraya la route tortueuse qui devait aboutir à la honte pour elle, au désespoir pour les autres. » « Rester à Paris, résuma la comtesse, faire ferme en assistant à tout le jeu des deux acteurs, ne leur laisser jouer que le rôle utile à mes intérêts, choisir parmi les bons moments un moment favorable pour la fuite, que ce soit une commission donnée par la reine, que ce soit une véritable disgrâce qu'on saisirait au bon. Empêcher le cardinal de jamais communiquer avec Marie-Antoinette, voilà surtout la difficulté, puisque M. de Rohan est amoureux qu'il est prince, qu'il a le droit d'entrer chez sa majesté plusieurs fois l'année, et que la reine, coquette, avide d'hommage, reconnaissante d'ailleurs envers le cardinal, ne se sauvera pas si on la recherche. Ce moyen de séparer les deux augustes personnages, les événements le fourniront, on aidera les événements. Rien ne serait aussi bon, aussi adroit, que d'exciter chez la reine l'orgueil qui couronne la chasteté. Nul doute qu'une avance un peu vive du cardinal ne blesse la femme fine et susceptible. Les natures semblables à celles de la reine aiment les hommages, mais redoutent et repoussent les attaques. Oui, le moyen est infaillible. En conseillant à Monsieur de Rohan de se déclarer librement, on opérera sur l'esprit de Marie-Antoinette un mouvement de dégoût, d'antipathie, qui éloignera pour jamais, non pas le prince de la princesse, mais l'homme de la femme, le mâle de la femelle. Pour cette raison, l'on aura pris des armes contre le cardinal, dont on paralysera toutes les manœuvres au grand jour des hostilités. Soit, mais encore une fois, si l'on rend le cardinal antipathique à la reine, on n'agit que sur le cardinal, on laisse rayonner la vertu de la reine, c'est-à-dire qu'on affranchit cette princesse, on lui donne cette liberté de langage qui facilite toute accusation et lui donne le poids de l'autorité. Ce qu'il faut, c'est une preuve contre Monsieur de Rohan et contre la reine. C'est une épée à double tranchant qui blesse à droite et à gauche, qui blesse en sortant du fourreau, qui blesse en coupant le fourreau lui-même. Ce qu'il faut, c'est une accusation qui fasse pâlir la reine, qui fasse rougir le cardinal, qui accrédite, lave de tout soupçon étranger, Jeanne, confidente des deux coupables. Ce qu'il faut, c'est une combinaison derrière laquelle, retranchée en temps et lieu, Jeanne puisse se dire « Ne m'accusez pas où je vous accuse, ne me perdez pas où je vous perds, laissez-moi la fortune, je vous laisserai l'honneur. » Cela vaut qu'on le cherche, pensa la perfide comtesse, et je le chercherai, mon temps m'est payé à partir d'aujourd'hui. En effet, Madame de Lamotte s'enfonça dans de bons coussins, s'approcha de sa fenêtre brûlée par le doux soleil, et en présence de Dieu, avec le flambeau de Dieu, elle chercha.